Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Pour ce 11e numéro d'un spectateur, ne soyez pas surpris. Nous jouons aux chaises musicales et c'est moi, Irène. La douce et intransigeante, sévère mais juste, enfin tour à tour, émolliante et totalitaire, qui vous parle. Oui, nous, en spectateur, on aime les épithètes homériques. Suite à une mutinerie, j'ai volé son micro au tenant habituel du poste pour présenter et animer le débat de nos chers spectateurs chroniqueurs. Je vous présente donc pêle-mêle, l'abominable homme des scènes, Florent.
Bonsoir Irène, est-ce que tu suces ?
Le fourbe spécialiste, toujours tapis derrière un professionnalisme de bon aloi, Antonio.
Bonsoir Irène.
L'invité de marque très pointu en opératique et musical, Jocelyn.
Bonsoir Irène.
Et en dernier, last but not least, le maître réduit en esclavage, Thomas.
Bonsoir Irène.
Au programme de cette émission, nous reviendrons ensemble sur le diptyque constitué de programmes, installations réalisées par Eric Arlix et Nicolas l'Espagnol Rizzi, et le guide du démocrate, spectacle de Simon Delétang et adapté du livre d'Eric Arlix et Jean-Charles Masserat. Puis Thomas et Jocelyn se disputeront le bout de gras autour de I Puritani de Bellini, version concertante de l'opéra à l'opéra de Lyon. Mais avant tout, une interview de Grégoire Blanchon, concepteur et metteur en scène du spectacle Trace au Théâtre des Marronniers. Cette interview est donc réalisée par notre serviteur, Thomas. Avant celle-ci, nous allons écouter un extrait du morceau Slight Bells, Run the Heart de Benjamin Gibert, à qui l'on doit toute la composition musicale du spectacle Trace.
Alors je vous propose maintenant de découvrir un beau projet, le projet Trace, qui sera joué du 21 novembre au 3 décembre 2012 au Théâtre des Marronniers. Et pour en parler, c'est Grégoire Blanchon que je reçois, metteur en scène et concepteur. Bonjour.
Bonjour.
Quelle trace laisse-t-on de son passage sur Terre ? Comment se modifient en nous les marques laissées par ce qui nous traverse ? Est-ce que ce qui disparaît est réellement perdu ? Comment les souvenirs, les récits intimes se transmettent et se partagent ? Au centre de ton spectacle et de ton travail, il y a une réflexion sur la trace, sur la mémoire, et leur lien avec l'être et l'identité. Et pour ce spectacle, tu as été rencontrer des résidents d'un service de gériatrie, de l'hôpital de Pélussin et de Saint-Pierre-de-Beuf, ainsi que leur famille et leur personnel. Alors, c'est un spectacle sur la mémoire ou sur la vieillesse ?
C'est un spectacle sur la mémoire, essentiellement sur la mémoire. C'est-à-dire qu'il y avait une réflexion sur... finalement, comment est-ce que dans la perte, dans la résurgence de souvenirs oubliés et dans la réécriture des récits qu'on se fait du passé, la réécriture au présent et du mélange parfois de la fiction et de la réalité, comment ces phénomènes-là qu'on rencontre tous au cours de notre vie, le cadre même de l'hôpital gériatrique nous permettait un effet loop, un effet zoom et une concentration de ces problématiques-là, et donc une lisibilité en tout cas plus grande.
Des problèmes qui nous concernent tous au quotidien, mais là qu'on voit mieux. Et justement concrètement, comment tu t'es servi de ces entretiens que tu as réalisés avec une vingtaine de personnes âgées dans ces différents services de gériatrie ?
Alors concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'après j'ai réécouté les deux semaines d'entretien qu'on avait.
Tout était enregistré ?
Tout était enregistré par Benjamin Gibert, qui est compositeur sur le spectacle, ouais. Et qui a utilisé la matière même des voix.
D'accord.
Par moment des personnes âgées et la mémoire sonore des lieux également. Donc j'ai tout réécouté, j'ai pointé les choses qui m'intéressaient et en fait, à partir de situations décrites, on a travaillé en improvisation avec les comédiens. C'est une écriture vraiment de plateau et qui nous permettait, moi, de dire « Ah, ça, dans l'improvisation, ça m'intéresse, on va la reprendre, tu vas développer ça. Ça, ça m'intéresse moins, on va le laisser tomber. » Et de réintroduire après, petit à petit, la parole même des résidents.
Et comment justement se passaient ces entretiens? Parce que donc c'est le départ, c'est ces deux semaines d'entretien. Comment ça se passe?
Comment ça se passe? Donc en fait, on a demandé aux résidents d'amener trois objets. Un du présent, un du passé et un au choix. Et ces trois objets-là nous permettaient en fait avec eux d'être sur déjà du sensible, sur de la sensation au niveau du toucher, au niveau visuel, au niveau olfactif. Et on a essayé de remonter un petit peu le fil de leur mémoire pour après être dans quelque chose où on a plus conceptualisé, c'est-à-dire qu'on a plus fait des questions sur la mémoire en elle-même avec les personnes des familles et le personnel de l'hôpital. Voilà.
Et alors, c'était la base de votre travail, cette rencontre avec le personnel, la famille, les personnes âgées, mais ça a été aussi votre premier public, puisque vous avez joué Trace à l'hôpital de Pélussin.
Alors d'abord, on l'a créé cet été pour 6 dates dans le cadre du Festival des Bravos de la Nuit, à Pélussin, qui est un festival qui existe depuis 25 ans. Et après, là, on a fait une représentation à l'hôpital en octobre.
Et alors, comment ça s'est passé? Quels ont été les retours sur votre travail, un travail qui avait été partagé?
C'était très, très fort. C'était marrant parce qu'on était dans l'unité Cantou. L'unité Cantou, c'est là où les patients qui ont la maladie d'Alzheimer, là où les résidents qui ont la maladie d'Alzheimer et qui sont dans une errance, souvent, donc dans une mise en danger de leur personne, sont. Voilà. Et on pensait qu'il y aurait énormément de va-et-vient, et finalement il y a eu une écoute extrêmement forte. Qu'est-ce que je peux dire sur leur réception? Il y a plusieurs choses. Il y a premièrement quelque chose qui est précieux pour eux, qui est qu'on les écoute en premier. Juste ça, qu'on ne dise pas grand-chose, mais juste une présence. Et après, de voir leurs propres paroles sur un plateau, il y a un effet miroir, un effet reconnaissance et une prise de distance possible.
T'as employé l'adjectif fort pour caractériser ce moment où vous avez joué devant les résidents, le travail auquel ils avaient participé. Fort, c'est aussi l'adjectif que tu mettrais pour la rencontre, tout simplement, avec eux.
Oui, forte et en même temps extrêmement, extrêmement questionnante sur. Mais là, on parle à un niveau intime, et c'est finalement pas ce qu'il y a dans le spectacle, mais questionnante sur qu'est-ce que je fais de ma vie.
T'as rencontré donc ces personnes-là, et c'est une constante dans ton travail, puisque c'est pas la première fois, en tout cas. Pour le spectacle Dire peut-être, en 2009-2010, qui donc traitait de la difficulté à prendre la parole et à faire émerger une voix, tu avais rencontré des personnes déjà atteintes de la maladie d'Alzheimer, mais aussi des personnes qui bégayaient, des personnes qui souffraient d'aphasie, comme, à l'opposé, des personnes qui faisaient profession de leur parole. Il n'y avait pas de personne qui faisait de la radio, j'ai pas vu en tout cas,
non,
mais en tout
pas.
Cas, il y avait des juristes, des psychanalystes ou des comédiens, forcément. Et alors, autre spectacle et autre même méthode, pour Imaginarium, c'est un spectacle jeune public.
Jeune public.
Ouais, tu avais rencontré des adultes et des enfants pour traiter de ce lien dont tu parlais un petit peu tout à l'heure entre le réel et l'imaginaire.
Oui,
c'est important.
On était deux avec Sarah Seignobosque aussi.
D'accord.
Qui était avec moi.
C'est important pour toi ce lien en amont d'un projet où tu vas chercher une matière dans la réalité pour créer tes spectacles.
Alors, au départ de la compagnie, il y a eu deux textes qui ont été montés. Il y a eu J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne de Jean-Luc Lagarce et La ménagerie de verre de Tennessee Williams. J'ai un double parcours, c'est-à-dire qu'avant d'être comédien, j'étais orthophoniste. Voilà. Et ces thématiques-là, qui sont les thématiques de la parole, de la mémoire, avec Imaginarium, du rapport imaginaire-réalité, mais du coup du monde de l'enfance, sont des choses qui m'intéressent et qui me tiennent à cœur. Cette méthode-là d'aller prospecter quelque part par des entretiens, c'est en fait finalement la méthode que j'ai utilisée pour mon mémoire d'orthophonie, qui était avec un angle de sciences sociales.
On réutilise les bonnes recettes, quoi.
Ouais, mais enfin, comment dirais-je ? La méthodologie est la même, et après l'utilisation, la transformation de cette matière-là n'est pas du tout la même, forcément. Puisque là, il n'est pas du tout question de... Il est question de création artistique, et pas du tout d'approche didactique ou analytique, ou statistique, encore moins. Voilà, et moi j'aime... je m'interroge énormément sur à qui on s'adresse, pourquoi faire du théâtre aujourd'hui. J'aime follement les textes, mais je crois que ça m'intéresse plus en tant que comédien, les textes, qu'en tant que metteur en scène, ou une écriture du réel, comment à partir aussi d'une oralité, on va être dans une écriture de cette oralité-là. Et comment est-ce que, en essayant qu'un comédien se laisse traverser par la parole de quelqu'un qui a témoigné, on puisse parler de celui qui est en face, de celui qui regarde. Voilà.
Alors ça, c'est la genèse du projet. Et sur scène, donc, au Théâtre des Marronniers, du 21 novembre au 3 décembre 2012, on aura le résultat du projet, pour traiter donc ce thème de la mémoire, un spectacle, ou plutôt plusieurs événements, spectacles, puisque sur scène, en effet, on a le spectacle en lui-même qui fait d'abord se rencontrer des pièces musicales, des créations sonores de Benjamin Gibert, t'en parlais tout à l'heure, et puis toi, ce que t'as écrit à partir de ces entretiens, forcément un théâtre de l'intime, on l'aura compris. Et puis après, en parallèle, une exposition des tableaux de Pierre Madvon à partir de ces mêmes témoignages, et également une projection d'un court-métrage qu'il a lui-même réalisé, qui s'appelle « Je me souviens ». Alors avant de parler de chacune de ces quatre différentes formes d'expression qui sont mobilisées pour un spectacle résumé par « trace » au pluriel, pourquoi ce choix justement de quatre formes d'expression différentes ? Pourquoi avoir fait le choix de la pluridisciplinarité ?
« Trace », ça a été une commande de la part du Festival des Bravos de la Nuit, où on a joué dire peut-être, qui nous a dit « nous, ça nous a plu » comme projet. On va maintenant avoir le principe d'une compagnie associée et on aimerait que, si vous êtes d'accord, vous travaillez à partir d'une récolte de paroles à l'hôpital. Et après, vous êtes très libre du sujet. Voilà. Donc la contrainte, c'était récolte de paroles à l'hôpital. J'ai accepté ça. Ça correspondait à des choses très intimes qui est le décès de ma grand-mère et donc toutes ces questions-là sur la mémoire, la trace qu'on laisse, etc., etc. Et ils ont proposé qu'il y ait un projet en parallèle qui est le projet de Pierre Madvon, le peintre. Donc Pierre était avec nous pendant les deux semaines de récolte de paroles. Il y avait Benjamin Gibert, Pierre Madvon et moi à la rencontre des résidents, des familles et du personnel de l'hôpital. Et Pierre a fait une exposition où, à partir de phrases que lui notait, lui il n'était pas dans un enregistrement sonore, il a fait un tableau par phrase. Et j'ai plutôt beaucoup aimé ses peintures. Il y a beaucoup de liens, puisqu'on a vécu les mêmes entretiens, et il y a des phrases qui se retrouvent, des choses qui mettent en résonance d'un point de vue pictural ce qu'on peut voir dans le spectacle. Et du coup, il a été proposé aux marronniers qui vont accueillir, je crois, maintenant régulièrement dans leur foyer des expositions en lien avec le projet, qui accueillent des expositions qui vont accueillir celles de Pierre. Et voilà, donc la peinture n'est pas dans le spectacle. Le spectacle fait à peu près 50 minutes. Et dans ce spectacle-là, il y a eu la volonté du départ qu'il y ait une trace sonore des entretiens et que cette trace-là soit transformée également, la voix, les sons, et que ça rentre complètement en interaction avec le corps des comédiens. D'ailleurs, c'est important de donner l'équipe. Il y a Julio Guerrero sur scène, Alexia Chambon-Piazza, qui sont deux comédiens, et Benjamin Gibert, qui est le compositeur, et qui est sur scène également, qui est comédien au même titre que les deux autres. Voilà, et la soirée, donc il y a 50 minutes comme ça, puis une rencontre de 10 minutes, un quart d'heure, un échange autour du processus, des questions que ça peut éveiller chez le spectateur. Et en fait, Pierre Madvon, à la demande du Festival des Bravos de la Nuit, a créé une grande toile à partir de ces toiles et a filmé le processus même, qui donne un court-métrage de 10 minutes, avec les différentes couches qui se superposent, qui s'effacent, des choses qui ressurgissent. Sur de la musique, c'est quelque chose de très très beau, son court-métrage, et qui entre vraiment en résonance avec le spectacle. Donc au départ, il n'y a pas eu un choix de notre part d'intégrer la peinture et d'être dans une multiplication des modes d'expression, mais une commande de deux projets parallèles qui trouveraient leur source au même endroit. Et quand on a vu les résultats, il y a énormément de liens de résonance et ça a du sens d'être là-bas ensemble.
C'était pas décidé, mais le rapport est heureux.
Très heureux.
Et tout à l'heure, tu parlais de transformation par rapport à ce matériel forcément bouleversant, forcément terrible même parfois.
Oui, après on a veillé à pas être dans une démarche tire-larme.
Oui.
Là, c'est extrêmement
C'est ça, j'allais
important.
Poser la question, est-ce qu'on y va avec du Xanax en poche ou
non,
pas?
Non, pas du tout. Pas du tout, c'est-à-dire que on ne parle pas de la maladie d'Alzheimer, c'est pas un spectacle sur la pathologie. Ça nous a servi de matière, mais après...
Comme tu disais, l'effet loup pour repérer des phénomènes
voilà,
qui nous concernent tous, et on a heureusement pas tous la maladie d'Alzheimer.
Oui, et puis on s'interroge sur le lien, le sens. Alors il y a quelque chose qui était assez beau quand on a interrogé la cadre de santé de Pélussin, de l'hôpital de Pélussin. Elle nous a dit on n'est pas là pour ajouter des années à la vie, mais de la vie aux années. Et c'était extrêmement palpable dans tout ce qui est mis en place sur le travail de la question du sens et du lien. Et on avait aussi à être fidèle à ça, dans ce qu'on rend. C'est-à-dire qu'il y a des choses très dures, mais à être absolument du côté de la vie et de la trace qui vit, et non pas de la trace sous cloche comme quelque chose de muséal et de mort.
Faire ressortir la vie qu'il y a même là où on peut penser que tout est noir, et effectivement pour les familles par exemple, qui ont vu ton travail... Les familles, elles ont peut-être du mal à faire ressortir la vie et faire ressortir la joie de cette expérience.
C'était très étonnant parce que face au même spectacle, on a eu des réactions extrêmement diverses. On a eu des personnes qui nous ont dit « mais qu'est-ce que c'est dur et violent !» Et le même soir, d'autres qui nous ont dit « mais quelle tendresse il y a dans le regard que vous portez sur elles, sur ces personnes-là, et qu'est-ce que c'est beau, doux, et ça me donne envie de vivre. » Donc... Je crois qu'après, ça résonne vraiment en fonction de notre vécu, de comment on voit la perte et notre propre finitude, puisque la mort, finalement, est jamais loin. La trace et la trace qui s'efface, et voilà, est jamais très loin. Mais c'est pas forcément triste. Ça dépend du vécu de chacun.
Et d'ailleurs, le fait que des gens réagissent comme ça, de façon très diverse, mais aussi de façon très tranchée, c'est quand même un gage... au moins d'un succès de cette pièce, en tout cas, tu arrives à faire passer des choses, c'est déjà une bonne chose, on va dire.
En tout cas, il y a un rapport scène-salle qui communique très très fort, oui.
Alors, ce rapport scène-salle, il est aussi lié à la musique, qui est très présente et très importante dans Trace. Alors justement, comment ça s'articule ton travail et celui de Benjamin Gibert, qui a vraiment fait un travail de création sonore? Comment sont faits les liens? Parce que vous avez donc travaillé
ensemble au départ. De façon très diverse, c'est-à-dire qu'il y a par exemple un morceau qui s'appelle Oubli, qui est une commande de ma part. Je lui ai demandé de travailler sur tous les moments où la parole est avortée, parce que il y a quelque chose dans la mémoire qui fait défaut. Toutes les dans les petites choses, les petits interstices où la mémoire la résurgence du souvenir est avortée. Il a créé un morceau à partir de ça. Donc ça, par exemple, c'est une commande.
Et d'ailleurs, ce morceau, on va en écouter un extrait.
Stop.
Donc là, on vient d'écouter Oubli. Ça, c'est une des formes d'interaction entre ton travail et celui voilà. de Benjamin Gibert.
Et une autre forme d'interaction, c'est par exemple sur Héritage. Lui a, de sa propre initiative, composé un morceau où il a créé une mélodie qu'il appelle mélodie mère et qui s'est déclinée en mélodie fille, c'est-à-dire comme une personne hérite des traces génétiques de ses parents, mais avec des mutations, et puis on retrouve, et puis ça mute petit à petit. Et à partir du moment où il m'a proposé ça, moi j'ai eu l'idée sur laquelle j'ai travaillé avec Anne-Sophie Fayol, qui est danseuse et qui nous a aidé au travail corporel, de travailler du coup sur des routines qui se répètent corporellement, parce qu'il y a la perte même de quelque chose qu'on a vu à l'hôpital gériatrique, mais donc là c'est de la chaise et de la fonction chaise, je ne sais plus ce que c'est et comment je l'apprivoise à nouveau. Et du coup ça se fait du coup dans les deux sens, interaction avec Benjamin.
Et le travail de Benjamin, c'est vraiment un travail titanesque, parce que souvent quand on parle de musique au théâtre,
ouais.
on a la mauvaise image, on prend une musique qui existe déjà et on la balance sur scène avec un choix du metteur en scène forcément. Là, c'est pas du tout ça, il a vraiment fait un travail de composition,
de création
énorme.
Absolument.
Et alors, est-ce que tu peux nous parler notamment de son clavier très spécial, ou si j'ai bien vu sur votre site, alors je donne le nom du site, le songe d'une planche à vivre.blogspot.fr. On peut voir une photo où il a un clavier.
C'est
où
super
chaque...
documenté. Ouais, ouais. Ouais, ouais.
Chaque touche est numérotée et il y a une petite expression ou une petite phrase.
Voilà, alors ça c'est un moment spécifique du spectacle où... Mais on ne peut pas trop déflorer non plus le spectacle. Où chacune de ces touches est reliée à une phrase de deux dames en fait, qui était très drôle, qui était... qu'on a rencontré d'abord de façon individuelle, d'abord de façon informelle, quand on a mieux expliqué le projet. Dans l'hôpital, et l'une qui nous dit « Ah, oh, elle, c'est ma mémoire, moi j'oublie tout. » Et l'autre était là « Mais si, moi je me souviens, vous savez combien de petits enfants ?» Et donc elle expliquait « Moi je sais que vous en avez 17. » Et du coup elle déposait sa mémoire qui partait dans sa voisine en fait. Et elles étaient très amies depuis qu'elles étaient rentrées à l'hôpital. Et après on les a rencontrées ensemble. Et ce phénomène-là, où l'une pallie les difficultés de mémoire de l'autre, a été enregistré du coup dans des conversations entre elles où parfois on posait juste le micro. Elles savaient qu'on était là et on leur posait des questions, et puis au bout d'un moment, nous on n'avait plus besoin de parler et ça se faisait tout seul en face.
Et après, ça donne lieu à un instrument.
Et ça donne lieu à, du coup, un dialogue en fonction de l'endroit où il appuie sur les touches et une interaction que je ne vais pas dévoiler avec le des comédiens au plateau. Voilà.
Et donc ça, c'est un exemple de musique complètement hallucinante qui est créée. Il y en a bien d'autres, par exemple.
Donc j'en ai déjà donné trois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a... Mais je vais tout dévoiler du spectacle. Il y a un moment, Alexia, elle a un texte sur la perte d'un mot dans la tête, la perte d'une idée. Et quelque part, elle sait qu'elle est là parce qu'elle sonne, elle fait ding 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 à l'arrière de sa tête. Et en fait, de ce son-là que Benjamin enregistre en direct avec Alexia, il va le modifier et ça va donner un morceau qui évoque une errance et une perte traduite dans le corps d'un comédien. C'est assez conceptuel comme ça, mais en fait, c'est vraiment à base... c'est un spectacle, en fait, voilà, ça c'est important de le dire au niveau de la narration, qui n'est pas avec des personnages, une intrigue, un début, un milieu, une fin, mais qui est plutôt une succession de tableaux sur des impressions et qui en fait se font écho les unes aux autres et tissent un réseau de sensations.
On est plus dans l'atmosphère que vraiment dans le récit.
Voilà, avec des parts de récit au milieu, mais en tout cas on n'est pas dans l'intrigue.
Alors, le début de ton spectacle c'est bientôt ? On rappelle la date, le 21
novembre.
C'est le
21 novembre. Du 21 novembre au 3 décembre au Théâtre des Marronniers. Relâche
qu'est-ce,
le
qu'on peut te... qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'ici le... pour le 21
Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter qu'il y ait
et
du
pour
monde,
ce spectacle ouais.
Que les gens aiment ou pas, peu importe, on aime toujours que les gens aiment, mais en tout cas que ça ne laisse pas indifférent. Que ça soulève des questionnements, en passant par, pas des questionnements purement intellectuels, mais des questionnements que quelque chose de... c'est très ambitieux et très prétentieux, mais que quelque chose de l'âme de celui qui écoute soit mis en mouvement. Peu importe la façon dont c'est mis en mouvement, ça lui appartient, et ce qu'il en fera, et qu'on en soit modifié nous aussi, transformé.
Eh bien écoute Grégoire, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci à toi d'être venu.
Merci beaucoup.
Et donc, on te retrouvera le 21 novembre et jusqu'au 3 décembre au Théâtre des Marronniers. Et j'ai vraiment hâte de venir découvrir ton travail et je te le dis vraiment du fond du cœur. Alors sur scène, nous retrouverons Benjamin Gibert aux côtés de Julio Guerrero, Alexia Chandon-Piazza. À la conception et à la mise en scène, c'est toi, Grégoire, on l'aura compris. À la musique, Benjamin Gibert. À la scénographie, Hélène Héché. Au travail chorégraphique, Anne-Sophie Fayol. Aux lumières, Eric Merinower. Merci à toi.
Merci.
D'écouter un autre morceau de Benjamin Gibert, Didine. Et maintenant, place aux chroniques de Florent et Antonio. Ils nous parlent du diptyque, le guide du démocrate et programme. Le premier volet est un spectacle satirique sur la société néo-conservatrice et libérale, je cite, Adapté d'un ouvrage se présentant vraiment comme un guide, le spectacle est censé réinventer la novlangue ultralibérale pour la moquer et de fait dégager un espace critique sur la scène et le temps d'un soir. Cette critique prend corps en un tribunal avec ses accusateurs et ses avocats. Sont tournés en dérision alors tous les apports de la sphère du marketing et la marchandisation à tout va, et notamment celle du corps, mais tout est démonté avec humour, parfois acerbe et grinçant. Puis je le rappelle, Programme était une installation sonore pour écoute collective qui remotivait sous la forme d'une écoute aveugle les entraves de la langue fasciste, pour paraphraser notre bon vieux Barthes. La prise de conscience collective aurait dû advenir après cette écoute, et de la nôtre aussi, chers auditeurs, du moins je l'espère. Alors, chers amis, le procès de la civilisation SMS était-il percutant ? Laurent ?
Alors, Irène, tu fais bien d'amener ça sous cet angle. Justement, bah, il y a eu trop de prises de conscience politique ce week-end, donc je vais faire une petite introduction avant de parler de ces deux pièces qui étaient dans l'ordre inverse, donc d'abord Programme, et ensuite le guide du démocrate. Face à la gauchisation de cette émission, qui n'en finit plus de remettre en question nos traditions avec une insolence qui n'a d'égal que le mauvais goût de ses chroniqueurs, Macbeth, la proclamation aux imbéciles, Suréna, rébellion contre le roi, rappelons-le, et maintenant la programmation au théâtre des ateliers, mais où va-t-on ? Je commence à me sentir mal dans ce studio trop étroit pour autant de révolte, dont les effluves délétères envahissent mes narines et obscurcissent mon jugement, au point de supporter cette fièvre rouge qui s'étale au front de ce bolchevique manifeste qui mène normalement les débats. Mangeur d'enfants, homme de peu de foi et membre notoire de la franc-maçonnerie de la cinquième colonne des Judas de tous bords, Thomas Lacombe, qui traîne derrière son micro. Regardez-le, cet être sordide, nageant dans ses vapeurs de soufre, ce sourire gluant de stupre et de luxure, ses cheveux d'une douceur angélique, qui cachent tant bien que mal les cornes de bouc qui affleurent sur son front brûlant. Mon chapelet en argent et les hosties qui garnissent mon ciboire portatif, ainsi que ma bouteille d'eau de lourde en forme de vierge à l'enfant, m'assurent à peine la sécurité nécessaire pour poursuivre. Je sens déjà sa queue fourchue me caresser la cuisse gauche sous la table, me faisant frémir les tréfonds de l'âme. Je le dis donc, insensible à la menace qui brûle dans ses yeux démoniaques, il faut réagir, et ce week-end m'en a fait prendre conscience. Je pense qu'il est temps, mes bien chers frères, de réfléchir aux vrais engagements de cette émission.
Et sinon, Florent, tu suces ?
C'est bien ce que je disais, c'est vraiment le chaos. Il faut réagir, disais-je, car ce week-end m'a ouvert les yeux sur la vérité divine, sacrée, une et illimitable et inimitable, d'ailleurs, voilà, hein, sans bite, tout ça. Je pense qu'il est temps, mes bien chers frères, de réfléchir aux vrais engagements de cette émission qui vire dans le débat politique permanent et ça me saoule. Le chaos, exactement. À l'heure où les valeurs profondes de la France sont attaquées, où la délicate feuille de vie naturelle du couple primordial est arrachée par les ébranleurs à tout va des valeurs naturelles, du couple naturel également, où les coups de boutoir des vies déviants menacent de faire choir le manteau d'église des frêles épaules de Marianne, ne doit-on pas, nous, dans cette école qui fit jadis la gloire de notre nation, nous élever contre ce délitement des valeurs dues aux homosexuels, aux pédérastes ?
Mais où va le monde, hein ?
Exactement.
Florent, si tu nous parlais un peu de théâtre ?
Je m'effondre, justement, à l'idée de ce qui va suivre. Ma mission l'emporte sur mon cœur, et je resterai dans le ton de cette émission décadente, et probablement xénophile, en parlant à rebrousse-narine des pièces que nous allons voir vendredi. Alors tout d'abord, Programme. Pour en donner un court résumé, ce serait une citation de K dans le livre de la jungle.
Assieds-toi, ferme les yeux, monte le son et confiance, je suis là.
C'est le véritable programme que nous propose cette pièce sans mauvais jeu de mots. Ou plutôt que pièce, installation sonore pour écoute collective comme l'a si bien dit Irène. On est installé sur scène, deux rangées de spectateurs assis dos à dos, un casque sur les oreilles, priés de fermer les yeux. Avant de poursuivre plus loin l'analyse des sentiments qui nous envahissent peu à peu, sous la lente montée d'un tremblement lourd qui sourd par tous les orifices de notre corps, deux constats s'imposent immédiatement, qui soulignent le génie véritable de cette installation. D'un point de vue formel, le quatrième mur est véritablement brisé, avec un succès indubitable. Le spectateur est acteur et réciproquement. Pour aller plus loin, on pourrait mettre des spectateurs dans la salle qui regarderaient les spectateurs sur scène en train d'écouter l'œuvre, et là, bam ! Ce serait génial. D'un point de vue économique, par ailleurs, c'est un remède efficace à la crise, puisque cette installation permet aux bons citoyens démocrates que nous sommes de jouir de 45 minutes de spectacle en éliminant au maximum l'élément le plus pénible du théâtre, ce sale fusible qui pollue nos scènes, l'intermittent et son cortège de niches fiscales. Une vraie pièce du redressement productif en somme, et cela tombe bien car c'est bien de ça qu'il s'agit dans ce programme, qui critique notre société consumériste, notre attitude attentiste, notre goût pour les attachés case, bref, une dénonciation en règle. Selon le dépliant fourni à l'entrée pour nous guider dans cette forme surprenante de théâtre, le concepteur est un sculpteur de son, ce qui m'a plongé dans une grande perplexité et a fait naître en moi une fascination pour la novlangue conceptuelle des arts de la scène. L'essentiel ne serait donc pas les mots, mais ces basses surboostées qui nous résonnent dans les intestins au risque de nous faciliter par trop le transit? Ou serait-ce ces lumières qui nous burinent le visage à intervalles réguliers? Cela donne finalement un curieux mélange du quart d'heure de la haine sur fond sonore de rêve party et de lampe UV dans la tronche. Surprenant mélange de dictature, consumérisme rebelle et impératif de la remise en forme, direz-vous. Vous n'auriez pas tort. Surtout que dans cette forme théâtrale désincarnée, la consommation de culture paraît facile, directement du producteur au consommateur. Mais ces réserves émises, on ne tombe pas dans le cultural fast-food indigeste. Le Paris, même s'il ne m'a pas entièrement conquis, exerce son influence pendant les 45 minutes où l'on est bercé, cajolé, secoué, ébloui, et l'on est surpris de se réveiller sur sa chaise après ce voyage dans les travers de notre petite vie occidentale bourgeoise. Tout bien considéré, je vous recommande, notamment à toi Irène, ce petit voyage sonore qui aura au moins le mérite de vous faire découvrir une nouvelle forme de création contemporaine, s'il ne vous transporte pas plus loin. En revanche, évitez à mon avis d'enchaîner ce spectacle avec le Guide du démocrate qui se joue au même endroit et qui est prévu pour être vu juste après. Avec les deux pièces à la suite, j'ai frôlé l'overdose révolutionnaire. Cette pièce, adaptée du pamphlet du même nom, se présente comme une étude entomologique du démocrate, ce citoyen moyen des sociétés occidentales et notamment européennes, abreuvé de slogans publicitaires et de messages politiques mous qui l'enjoignent bien sûr à se soumettre à la norme. En d'autres termes, on regarde s'enculer des mouches qui bandent mou, si tant est qu'une mouche bande, ce qui est sans doute un vire-langue, mais passons, au cours de chapitres qui abordent différents aspects de notre vie capitalistico-soumise. Alors oui, à la suite du voyage dans notre vie capitalistico-vécue, ça fait beaucoup, comme une soirée à thème sur Arte ou après le film sur la vie à Berlin-Est, on regardera un documentaire sur la destruction du mur, puis une série sur la vie dans les geôles de la Stasi. Ça fait quand même une somme de choses difficiles à avaler en aussi peu de temps. Gros avantage du guide du démocrate, on rigole bien. Et il faut dire que certains travers de notre société sont assez joliment moqués. Les accros du portable, le culte de la compétitivité, la sexualité occidentale défaillante, le partage de doutes existentiels sur le lavage des serpillères et des torchons. Comment concilier lavage à 60 dans une machine qui tourne presque à vide et conscience écolo-responsable? Entre parenthèses, si tu as la réponse à cette question chez toi, cette question qui me tenaille depuis vendredi soir, lâche un com sous l'émission. Je serai ton Paul, tu seras mon rédempteur, cette page deviendra mon chemin de Damas, et nous courrons vers un avenir radieux et hypoallergénique, la main dans la main et les yeux dans les yeux. Nous irons deux par deux sans peur du lendemain avec des serpillères propres et éco-responsables.
Il fallait remettre un peu de sacré dans cette émission, c'est bien.
Exactement, trop de chaos gauchistes. Les personnages étudiés donc, car je vous entends qui vous demandez de quoi parle finalement cette pièce en dehors de mes délires extatiques.
Oui, effectivement.
Donc les personnages étudiés, qui tour à tour sont voix off du reportage et objet d'étude. D'abord, un bobo tirant sur le hipster, ce qui est déjà assez difficile à imaginer dans la vie réelle. C'est-à-dire chemise à carreaux, lunettes rondes en écaille et défense du bio. Une gentille fille un peu pimbèche, mais quand même au courant de l'actualité. Révolte à l'idée de la souffrance des petits Africains trop gentils qui meurent de faim. Comportement post-adolescent prolongé, goût pour le karaoké, probable lectrice de courrier international. Et enfin, un homme en costard avec des tirants entre les mots, qui est tantôt le seul adulte conscient des problèmes véritables du monde, tantôt Golden Boy, ce qui me paraît assez difficile à concilier, mais bon. On les observe dans différentes situations typiques de la vie du démocrate, dans le petit terrarium aménagé sur scène dans un container salon Ikea, tel le clochard moyen sur les quais de la Saône. Une pièce agréable finalement, même si les dénonciations sont un peu faciles, et si un petit retournement attendu à la fin dénonce la dénonciation, avant que cette dénonciation de dénonciation soit elle-même dénoncée. Une mise en abîme convenue qui fait partie des points faibles du guide du démocrate, qui à mon avis ne va jamais au bout de ses partis pris et reste donc un peu tiède.
Alors, Antonio, je vois l'assentiment briller dans tes yeux.
Enfin, plus que l'assentiment, j'étais en train de me remémorer cette installation programme, dont, à vrai dire, j'ai peu de choses. Je peux pas vraiment en parler. J'avais du mal à me concentrer avec Florent qui me caressait la jambe et me faisait du pied pendant 20 minutes de sculpture sonore.
Ah bah bravo, ça hurle contre la décadence. Et puis après, hein? Bravo.
C'était pas moi. C'est ça qui est inquiétant.
C'était l'autre voisin, c'est ça.
C'est probablement l'un des intérêts de cette installation qui peut se faire volontiers lieu de drague et de rencontre. Même si le soir où on est allé, c'est-à-dire le premier soir où elle était effective, on était à vrai dire peu nombreux, à peine une vingtaine pour les 40 personnes prévues.
D'ailleurs, je pense qu'il faut souligner l'honnêteté du personnel du Théâtre des Ateliers qui aurait pu profiter de cette séance où on avait les oreilles bouchées, les yeux fermés pour faire les poches des sacs et qui n'a pas fait.
Allez-y, sans crainte.
Voilà, on vous a filé l'idée, si vous écoutez, n'hésitez pas.
Tous les Roms de Gerland.
Contrairement à Florent, ceci dit, je pense que c'est intéressant de voir programmer le guide du démocrate à la suite, dans la mesure où on pourrait dire que c'est à peu près le même contenu, les mêmes idées qui sont avancées. Donc oui, on se laisse aller dans cette installation qui prend des allures de jeux vidéo, de jeux dont vous êtes le héros, comme on le dit souvent. On nous dit, vous montez un escalier, vous trouvez deux hommes en costard en haut. On nous dit pas très précisément ce qu'on fait avec ces deux hommes, malheureusement, mais Florent était là pour pallier ce défaut.
Vous l'aurez compris, c'est donc une émission à thème qu'on vous propose aujourd'hui.
Aujourd'hui, le mariage gay, c'est de la balle.
Mais ne vous inquiétez pas, on vous parle d'île Puritanie après les puritains de Bellamy.
Enculons-nous dans les salles obscures, en spectateur.
Pour ceux qui seraient intéressés, le numéro de téléphone de Florent est le 06.
Il est écrit dans les toilettes du premier étage. En dessous de la mention, je suis gratuit.
Effectivement.
Où Florent garde un bon souvenir de cet entracte assez long entre Programme et le Guide du Démocrate. Donc, pour en finir sur Programme, même si c'est difficile d'en finir, comme vous pouvez l'entendre, on regrette, on peut regretter en tout cas, cet aspect-là, le jeu dont vous êtes le héros, c'est-à-dire une dimension très prescriptive, qui conditionne beaucoup de spectateurs, obligés de fermer les yeux pour ne pas être éblouis devant les projecteurs plein feu. On nous dit souvent quoi imaginer, quoi penser, avec un grand renfort de description et d'univers sonore dont il faut souligner le travail et assez souvent l'intérêt. Parfois, on a du mal à savoir si le son vient des casques ou s'il est ambiant dans la salle. On ne sait pas si les gens chuchotent ou si c'est retransmis dans les casques. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais bon, donc dimension très prescriptive qui peut paraître contradictoire avec le fond et le contenu de cette installation, qui semble tout du moins pointer du doigt, critiquer et nous faire réfléchir sur des travers sociaux liés à la culture télévisuelle, à la publicité, au marketing en général. Contradiction dont on ne sait pas très bien si elle est prévue, assumée, pour qu'on finisse par s'en rendre compte et faire un retour réflexif dessus, ou si cette installation tombe dedans à force de vouloir la décrire, justement. C'est ce que Simon de Létang considère comme la langue de l'ennemi dans le programme du Guide des démocrates qu'on a pu voir ensuite. Langue de l'ennemi, dont il se tire assez bien, contrairement à l'installation, puisque elle est sans cesse caricaturée et tournée en dérision.
Si je puis me permettre, pour continuer dans le thème spécial de cette émission, on se demande où est la langue de l'ennemi exactement.
Voilà. Merci, c'était très intéressant comme intervention.
C'est un plaisir.
Je ne sais pas où est la langue de l'ennemi, mais la tienne, oui.
Donc, vous êtes beaucoup rapprochés lors de cette soirée, dites-moi.
C'est grandiose.
On continue.
Caricature donc avec des personnages types que Florent a assez bien définis. Un jeu outrancier qui peut agacer, mais ici est très à propos. J'ai pas pu m'empêcher de penser à l'ironie, au cynisme qu'on a par exemple chez Voltaire, et qui est tout à fait du même ordre. Parlons de choses sérieuses pour une fois.
Merci de relever le débat.
Intérêt aussi du Guide du Démocrate qui n'ennuie pas. C'est-à-dire que ça reprend un essai politique, mais n'est jamais trop théorique, notamment grâce à une mise en scène très très rythmée. Ça fonctionne évidemment par chapitre, mais à l'intérieur de chaque chapitre, on pourrait voir plusieurs séquences. Il y a beaucoup de musique, ça va très vite, enfin, donc ça va aussi de pair avec le type de jeu qui est exigé aux comédiens.
Dans un espace scénique assez réduit, ils arrivent quand même à varier assez les jeux.
Voilà. Intérêt de l'espace scénique et de cette scénographie qui joue sur plusieurs niveaux autour de cette boîte transparente, donc dont a parlé Florent, qu'on peut voir comme une sorte de laboratoire social dans lequel évoluent les personnages, autour duquel tourne donc ce troisième individu qui s'appelle a priori le démocratiseur. Donc rythme et jeu qui reprend celui de la pub et de la culture pub, mais qui est poussé à l'extrême de telle manière qu'on ne peut que en rire. D'ailleurs, c'est assez ironique d'avoir choisi ce comédien pour le démocratiseur, puisqu'il est aussi connu pour les pubs qu'il a fait, notamment des pubs pour des banques et des voitures, ce qu'on ne manque pas de nous montrer pendant le spectacle. Un mot sur le rapport du spectateur au Guide du démocrate. Quoi qu'on fasse et quoi qu'il arrive, on ne peut pas ne pas s'y reconnaître, malheureusement. On s'en éloigne parfois pour avoir une distance critique un peu plus grande, pour reconnaître davantage son voisin que soi-même, mais on finit toujours par y revenir.
Alors nos chroniqueurs ont finalement réagi à un théâtre certes partisan, mais non pas politique, qui finalement ne créa pas de débat. Le second spectacle, I Puritani de Bellini, était donc la version concert sans mise en scène de l'opéra. Le pitch est convaincant, quoique déjà vu, surtout à l'opéra. Deux jeunes tourtereaux s'aiment d'amour tendre, mais sont condamnés par leur famille à être séparés par l'histoire avec sa grande hache. L'intrigue se passe lors de la révolution anglaise menée par Cromwell, dont s'enfuivra la décapitation du roi Charles Ier Stuart. Arturo, prénom aux consonances clairement anglophones, est de la famille des Stuart et Elvira, sa douce promise, dans le camp des puritains, les partisans de Cromwell. Contraint à la séparation, Arturo, pour protéger la reine Henriette, la fait passer pour sa fiancée, ce qui fait sombrer la pauvre fille dans la dépression la plus noire, avant que tout revienne dans l'ordre, les troubles politiques passés. Chez Bellini, les puritains s'en tirent avec les honneurs et le mariage. Arturo finira, malgré les désordres de l'histoire, à mener sa belle à l'hôtel. Mais je suis curieuse de savoir comment une histoire si romanesque pourrait survivre dans la version strictement concertante. Alors, Jocelyn, la musique se suffisait-elle à elle-même ?
Non seulement la musique se suffisait à elle-même, mais en plus l'opéra qui nous a été proposé n'avait rien à envier finalement une version scénique. Et je pense que c'est ce qu'on peut retenir surtout de la production que vient de nous proposer l'Opéra de Lyon en partenariat avec le Théâtre des Champs-Élysées, puisque l'œuvre a aussi été donnée à Paris la même semaine. Une difficulté pour un opéra donné en version concert, finalement, c'est que cet exercice se transforme en exercice de style, à savoir qu'on met en avant finalement que l'orchestre, éventuellement la distribution, mais dans la technique pour la technique, puisque effectivement, sans les artifices de la mise en scène, il semble plus difficile de faire vivre l'œuvre. Et je pense que Thomas s'accordera avec moi pour dire que, en l'occurrence, nous n'avons pas assisté à un exercice de style, mais bien à un opéra à part entière, où à la fois la musique, le chant et la théâtralité étaient convoqués pour finalement avoir un opéra qui valait tout à fait une version scénique.
Oui, c'est le cas.
Alors, quelques mots sur la distribution qui nous a été proposée, à savoir que les rôles principaux d'Arturo et d'Elvira étaient brillamment interprétés par leurs interprètes respectifs.
Dmitri Korchak et Olga Peretiatko. Je fais la speakerine aujourd'hui, vous l'avez compris.
Le premier donc pour Arturo, bien sûr, le second pour Elvira, naturellement. Oui.
Et des interprètes très jeunes, puisque Dmitri Korchak a 33 ans et Olga Peretiatko, dont évidemment nous n'avons pas l'année de naissance, diva oblige, est aussi très jeune, on ne lui donne pas plus de 30 ans. Hein.
Oui, et puis surtout ce qu'on peut remarquer, c'est des personnages jeunes, mais finalement on sent hein, dans ces chanteurs une future carrière qui à mon avis n'aura rien à envier aux actuels grands de la scène lyrique. Concernant le personnage d'Arturo, la prestation était d'autant plus surprenante qu'il nous avait été annoncé comme souffrant avant la représentation, alors que finalement ses aigus n'avaient absolument rien à envier aux anciens interprètes du rôle. Et ce qu'on pouvait surtout apprécier chez lui, c'était finalement la jeunesse, la vaillance qui ressortait de son jeu.
Et sa fougue.
Quant à Elvira, elle porte littéralement l'œuvre du début à la fin, puisque c'est un personnage qui est bien sûr présent dans tous les actes. C'est un personnage qui est présent dans tous les actes et qui passe aussi par tout un tas finalement d'émotions, que ça soit l'exaltation hein, de l'amour ou bien les scènes de la folie, qui sont assez courantes hein, dans le bel canto. Je crois que là, on peut vraiment s'accorder pour dire que, d'une part, sa maîtrise technique était absolument parfaite, son médium assuré, et que d'un point de vue théâtral, le jeu était présent et surtout la complicité entre les chanteurs et avec l'orchestre était présente. Et je pense que c'est là un des travers du bel canto, enfin un risque qui aurait pu avoir qui a été évité, à savoir que le bel canto hein, donne quand même la part belle finalement aux vocalises et au timbre et à la voix, et finalement c'est vraiment un exercice de style. Nous n'avons pas assisté finalement pour le coup à une concurrence de technique entre l'orchestre et la distribution, mais au contraire un appareillement harmonieux, voire complice même, lorsqu'on voyait donc le chef d'orchestre se littéralement serrer dans les bras avec les interprètes à moult reprises tout au long de leur présentation. Une véritable harmonie et finalement un jeu à égalité entre tous les interprètes, tous les musiciens et le chœur bien sûr qui était très présent pour donner finalement une sorte de joyeuseté, de légèreté et surtout de bonne humeur contagieuse à la salle.
L'exercice du bel canto était si bien maîtrisé que la musique n'en perdait pas de sens et était davantage renforcée en théâtralité, puisque le bel canto c'est l'opposition à la musique symphonique qui va peu à peu envahir l'opéra par la suite dans le 19e siècle.
Bah surtout, la théâtralité était magistralement portée par les interprètes. À savoir que, visuellement, lorsque ça soit d'ailleurs aussi bien dans le chœur hein, que sur les rôles principaux, lorsque donc les pièces chantées étaient en cours, il y avait une vraie gestuelle à la fois sur le visage et sur les mains, sur les acteurs, comme si finalement, enfin, il ne manquait finalement que le décor et les costumes. Mais finalement, ça manquait pas, et ils portaient vraiment les rôles, de façon magistrale et théâtrale. On les sentait même finalement incarnés par les personnages, aussi bien psychologiquement que vocalement, donc. Et ça faisait vraiment une production qui, même pour moi, était beaucoup plus réussie que Macbeth, pour le coup.
Je suis contente de savoir que tu t'es amusé sans moi, je sais. Et toi, Thomas, j'aimerais savoir si, après la vie aussi, expert de Jocelyn, tu as des choses à dire.
Un avis forcément moins expert que Jocelyn, évidemment, mais je voudrais revenir sur les risques qu'il y avait à présenter du Bel Canto à Lyon, et tu en as signalé un, Jocelyn. Il y en avait deux autres qui tenaient. Alors toi, tu as fait ce lien entre les chanteurs et puis l'orchestre. Moi, je décompose un peu. Il y avait un risque dans l'interprétation des chanteurs et aussi dans la direction de l'orchestre. Et c'est des risques qui sont pas du tout secondaires. Le premier, c'était donc qu'il fallait une interprétation des chanteurs vraiment sensible et dans la nuance, parce qu'on ne peut plus, c'est une évidence, chanter du bel canto comme à l'époque. Déjà, techniquement, ce n'est plus possible. Déjà en 1957, dans ses mémoires, Beniano Gigli, célèbre ténor italien du début du XXe siècle, disait « Bellini et Donizetti avaient écrit des opéras, ces opéras étaient chantés, les chanteurs de cette époque étaient capables de les chanter. » Et il cite tout un tas d'interprètes merveilleux et un petit peu oubliés de l'époque qui étaient capables de chanter ces opéras. Et il enchaîne en disant en 57, « Aujourd'hui, la plupart des chanteurs ne peuvent pas les chanter, c'est le déclin. » En effet, Bellini a écrit cet opéra, notamment pour les rôles de ténor, avec une densité qui va du baryton au ténor, ce qu'aucun chanteur aujourd'hui n'est capable de faire. On pense notamment à l'acte 3, au célèbre air Credeati Misera, où Arturo doit pousser la note du contrefa, qui est la note la plus aiguë écrite pour un ténor dans l'histoire de l'opéra, et qui aujourd'hui est quasiment impossible à réaliser. Et effectivement, Dimitri Korchak l'a fait, même souffrant, sur scène. Donc c'était une prouesse technique à faire du bel canto et du Bellini qui nous était proposé. C'est aussi une prouesse artistique, parce que à l'époque il y avait une manière vériste, très, on imaginait très mollo quand on pense au bel canto, ces airs roucoulants, ces airs très très passés. Ça, c'était l'écueil, nous faire, comme tu disais, Jocelyn, un exercice de style où on montre merveilleusement sa voix. Non, c'est pas ça qu'on attend, surtout depuis la Callas qui est passée par là, qui a fait du bel canto à la fin de sa carrière, et notamment qui a repris Norma de Bellini et qui a posé sa voix d'une façon si poignante, si émouvante, qu'on ne peut plus faire du bel canto depuis Maria Callas sans interpréter. Et de l'interprétation, il y en a eu à l'Opéra de Lyon. Il y avait, tous les registres sont passés, parce que la palette que fournit Bellini et le livret est vraiment très dense, et on passe effectivement de tous les registres de chant, mais aussi de tous les registres d'émotion. Et on peut le dire, il y avait vraiment de la magie sur scène, et parfois même un sentiment d'irréalité qui n'était pas que lié à ses prouesses vocales, donc, mais aussi à l'interprétation extrêmement sensible qui nous ont été donnée. Donc ça, c'était le premier écueil, une interprétation qui se devait d'être à la hauteur. Elle l'était, tant techniquement que artistiquement. Donc on peut, donc comme tu l'as fait, Jocelyn, rendre hommage à la fois aux deux rôles-titres, on va dire, mais également, moi j'ai spécial dédicace, on va dire, à Henriette de France, qui a un tout petit rôle, mais qui avait une voix magnifique et une interprétation très très sensible, c'est Daniela Pini, et un rôle un peu moins secondaire, celui de Ricardo, le rival d'Arturo, qui était joué par Pietro Spagnoli, et avec beaucoup de noblesse dans la voix. Alors, autre écueil qu'il fallait éviter, c'était celui d'une direction d'orchestre trop fade. En effet, dans l'interview que j'avais pu réaliser avec Stefano Rabaglia, qui est donc chef d'orchestre lui-même et qui assistait le chef d'orchestre Evelino Pido, qui a fait un travail magnifique sur cette opéra en version concert, il nous disait, Stefano Rabaglia, que la plupart des chefs d'orchestre n'aimaient pas trop diriger du bel canto parce qu'ils avaient l'impression que c'était juste accompagner les chanteurs. Il disait, oui,
qu'il n'y avait pas une bonne harmonie, Jocelyn, entre les deux. Là, il y avait cette harmonie, et il y a eu un travail d'interprétation de tous les silences qu'il peut y avoir, de tous les ellipses qu'il y a entre les notes de Bellini, qui rendaient l'accompagnement, ces lettres de noblesse. Et véritablement, si l'accompagnement est un art, Evelino Pido en a révélé toute la maestria, faisant de l'orchestre de Lyon un personnage à part entière de cet opéra.
Et d'ailleurs, on voyait très bien le chef d'orchestre tout au long de la présentation, parce que l'orchestre est sur scène et en pleine lumière. On voyait très bien le chef d'orchestre vraiment donner les indications, les tempos, et surtout indiquer aux chanteurs notamment, ou aux musiciens, quand il fallait jouer la note, quand il fallait chanter. Donc insister sur les silences, comme tu le signalais. Donc ça donnait vraiment une très belle harmonie, à la fois dans la façon de présenter la pièce, de la jouer et de l'interpréter, une très belle harmonie d'ensemble. Je pense qu'on peut aussi juste souligner le choix de la programmation, puisque dans le répertoire du bel canto, cette œuvre de Bellini n'est absolument pas la plus connue aujourd'hui, en tout cas. On connaît surtout la Norma ou bien sûr la Somnambule. C'est une œuvre qui est tombée dans l'oubli, donc la donner en version concert était d'autant plus risquée que pour un public qui ne connaît pas grand-chose en opéra, il y avait peut-être un risque de tomber dans l'ennui, de ne pas connaître une œuvre qui apparaît comme simpliste aussi, hein, de prime abord. Même si la trame politique est aussi présente, hein. C'est l'époque de la révolution de Cromwell, et donc dans ce choix d'une œuvre un peu aussi politique par moment, on peut voir l'émergence d'une conscience nationale très très propre à l'opéra italien, au futur opéra italien qui se développera ensuite. Donc c'est une œuvre qui était tombée dans l'oubli, dont finalement le choix était pas forcément évident pour un tel répertoire, et je crois que l'accueil qu'a fait le public à l'œuvre à la fin de la présentation. Je sais combien de minutes, longues minutes d'ovation.
Ah, c'était énorme, mais c'était mérité.
Montre que on peut faire vraiment le choix d'une programmation qui sorte des classiques, des œuvres qu'on a revues 10, 15, 20, 30 fois, tout en permettant des productions de qualité comme celle-là. Et je pense qu'on en redemande pour les saisons à venir, en tout cas, très largement. En tout cas, ça fait honneur à l'Opéra de Lyon de proposer un tel répertoire.
Bref, on peut dire vive le bel canto, et vive le bel canto interprété aussi intelligemment et aussi sensiblement.
Je vois que l'Opéra de Lyon n'a pas démérité. Je fais la référence à sa très bonne réputation, et je dirais même à vous entendre qu'on fait mieux que Maria Callas ici à Lyon. Mieux, presque aussi bien peut-être. Je vais conclure en remerciant Antoine à la technique, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'En Spectateur, mais je ne serai plus là à mon poste, puisque j'espère que le capitaine du bateau reprendra les commandes, parce que cette fois-ci, c'était un peu chaotique. L'ordre reviendra, je vous le rassure. Et d'ici là, surtout, n'oubliez pas d'aller au cinéma, au théâtre ou à l'opéra. Bref, n'oubliez pas de vivre En Spectateur.